Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de Radio Vatican. La messe du pape François en la chapelle de la Maison Sainte-Marthe au Vatican et les nouvelles de l'église Famille de Dieu qui est en Côte d'Ivoire constitueront l'essentiel de l'actualité de l'église de cette édition de notre programme. La situation pandémique due au nouveau coronavirus sur le continent, nous en parlerons dans l'actualité sociopolitique africaine qui nous conduira notamment au Mali, au Lesotho. À tous et à toutes, merci d'être à l'écoute de Radio Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niémier.
Lors de la célébration eucharistique qu'il a présidée vendredi matin en la chapelle de la Maison Sainte-Marthe au Vatican, le Saint-Père a consacré son homélie à Notre-Dame des Douleurs. Aujourd'hui, a-t-il dit, il nous est donné l'opportunité de penser aux souffrances de la Vierge Marie et de la remercier parce qu'elle a accepté d'être mère du Sauveur. En ce vendredi de la Passion, a exhorté François, l'Église se souvient des douleurs de Marie, Notre-Dame des douleurs. Depuis des siècles, cette vénération du peuple de Dieu est présente dans l'Église. Des hymnes ont été écrits en l'honneur de Notre-Dame des douleurs. Elle se tenait au pied de la croix et contemplait son divin fils souffrant, a signalé le pape. La piété chrétienne a recueilli des douleurs de la Vierge et pâle des sept douleurs a poursuivi l'évêque de Rome, précisant que la première douleur de la Vierge Marie était déjà 40 jours après la naissance de Jésus. La prophétie de Siméon parle d'une épée qui lui transpercera son cœur. La deuxième douleur a indiqué le Saint-Père et la fuite en Égypte pour sauver la vie de son fils. La troisième douleur, ce sont les trois jours d'angoisse où le garçon est resté dans le temple. La quatrième douleur, c'est lorsque la Vierge rencontre Jésus sur le chemin du calvaire. La cinquième douleur est la mort de Jésus, en voyant le Fils crucifié, nu, mourant. La sixième douleur, c'est la descente de Jésus de la croix, mort, et Marie, sa mère, le prend dans ses mains, comme elle l'avait pris dans ses mains plus de 30 ans auparavant à Bethléem. Et enfin, la septième douleur est l'enterrement de Jésus. François a indiqué que la piété chrétienne suit ce chemin de Notre-Dame qui accompagne Jésus. Il a ainsi invité les fidèles à s'arrêter un moment pour réfléchir à la douleur et aux peines de la Vierge Marie.
Oggi ci farà bene fermarci un po' e pensare al dolore e ai dolori della Madonna.
Il nous fera du bien de nous arrêter un peu et de dire à la Vierge, merci d'avoir accepté d'être mère quand l'ange vous l'a proposé et merci d'avoir accepté d'être mère quand Jésus vous l'a dit.
Per aver accettato di essere madre quando Gesù te lo ha detto.
À la fin de l'Eucharistie, le Saint-Père a fait un moment d'adoration eucharistique et a invité les fidèles chrétiens qui le suivaient au moyen des divers moyens de communication à faire la communion spirituelle. Le pape avait offert cette messe à l'intention de tous ceux qui pensent à la pré-pandémie et aux conséquences qui en découleront. Le père Raniero Catalamessa, prédicateur de la maison pontificale, a conclu vendredi son cycle de méditation sur le rôle et la place de la Vierge Marie dans le mystère pascal. Le prédicateur de la maison pontificale a délivré sa dernière méditation dans le cadre des exercices spirituels des carêmes de la Curie romaine. Comme ces dernières semaines, en raison des mesures de confinement, ce temps d'enseignement a été enregistré depuis la chapelle Redemptoris Mater du Palais Apostolique. Le père Catalamessa est revenu sur le thème « Femme, voici ton fils, Marie, mère des croyants ». Il a ainsi indiqué que dans les considérations sur Marie dans le mystère de l'incarnation pendant le temps de l'Avent, nous avons contemplé Marie comme mère de Dieu. Les réflexions sur Marie dans le mystère pascal nous amènent à la contempler comme mère des chrétiens et notre mère. Le père Catalamessa a précisé qu'il ne s'agit pas de deux titres ou de deux vérités situées sur le même plan. Mère de Dieu est un titre défini solennellement. Il se base sur une maternité réelle et non seulement spirituelle. Il est en lien étroit, il est en lien très étroit et nécessaire avec la vérité centrale de notre foi, à savoir que Jésus est Dieu et homme dans une seule et même personne. C'est un titre universellement reçu dans l'Église, Mère des croyants, quant à lui, ou Notre Mère, indique la maternité spirituelle. Le prédicateur de la maison pontificale a par ailleurs signalé que la maternité spirituelle, de manière analogue à la maternité physique, se réalise en deux moments et deux actes, conception et enfantement. Aucun des deux ne suffit à lui seul. Marie a connu ces deux moments spirituellement, elle nous a conçus et enfantés. Le Père Cantalamessa a enfin invité à l'imitation de Jean en prenant dès aujourd'hui la Sainte Vierge Marie avec nous et dans notre vie. N'ayez pas peur, c'est la réflexion avec laquelle l'archevêque d'Alger en Algérie, Mgr Paul Despage, encourage ses chrétiens à ne pas perdre de vue l'essentiel face à l'urgence coronavirus. Mgr Despage souligne que le moment présent nous fait vivre la fraternité humaine et universelle à l'unisson comme nous l'avions déjà imaginé. Confinés, isolés, seuls, en famille, en communauté, en petits groupes, en prison. Une émotion commune nous rend proches les uns des autres, écrit Mgr Despage, qui ajoute que notre souffrance, celle de nos voisins, le deuil de nos proches, nous fait ressentir une véritable compassion pour tous ceux dont nous entendons les nouvelles de Chine, d'Italie, d'Afrique centrale, du Canada ou d'ailleurs. La fraternité de notre humanité commune nous rapproche, estime en outre l'archevêque d'Alger. Les distances et l'isolement qui nous empêchent de nous rassembler, d'aller prier ensemble, de faire la fête ensemble, pourraient nous laisser impuissants et nous faire nous demander si Dieu est absent. Pour le prélat, le Christ est là pour apporter un nouveau goût pour la prière personnelle, la prière en famille, la lecture de la parole. Sa miséricorde traverse les écrans comme cela s'est manifesté le 27 mars lorsque le pape, avec la bénédiction Ubi et Orbi de Rome. C'est un pardon pour tous, un pardon sans condition, parce que Dieu est un Père qui aime tous ses enfants. Il nous dit « N'ayez pas peur, je suis avec vous ». Concluons l'actualité de l'Église par la Côte d'Ivoire où l'évêque de Katioula, Mgr Ignace Dobobessi, a exhorté les fidèles chrétiens ivoiriens à la charité et à la solidarité en les mettant en garde contre tout risque de mauvaise gestion des subventions de l'État dans la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus dans son pays. Reportage.
Dans ce message qu'il a intitulé « Appel de l'évêque de Katioula à la solidarité universelle dans la lutte contre la propagation du coronavirus », Mgr Ignace Dobobessi attire l'attention de tout un chacun sur la fragilité de l'homme. Tout ce qui l'entoure passe, passera et lui avec, y compris ce virus qui bouleverse toute son organisation politique, économique et sociale, affirme-t-il. Une situation qui, selon lui, devrait nous inviter à nous attacher à ce qui ne passe jamais, la charité, appelant tous, en particulier les Ivoiriens, à la charité sous l'angle de la solidarité. Cette charité qui implique la solidarité avec tous ceux qui souffrent de cette pandémie et non celle qui profite du malheur des autres pour faire des affaires et s'enrichir. La solidarité dans le malheur nous interdit d'augmenter les prix, de permettre aux plus pauvres d'avoir de quoi se protéger, se soigner, se nourrir. Le contraire nous donnerait un visage hideux incomparable à celui du coronavirus, prévient-il. Aussi pour tous ceux et celles qui auront à gérer des subventions de l'État dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, le président de la conférence épiscopale ivoirienne leur demande de le faire dans une transparence irréprochable à tous égards, que tout ce qui sera dégagé ou est dégagé pour la lutte soit utilisé sans retenue aucune, même de la plus petite piécette, a-t-il souhaité. Et enfin, la solidarité dans le malheur pour lui exige également le respect strict des mesures pour éviter d'être à la base de la contamination des autres, a-t-il indiqué, tout en exhortant ses concitoyens à être solidaires également dans la prière pour vaincre le Covid-19. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
L'actualité sociopolitique sur le continent reste largement dominée par la pandémie du Covid-19. En Côte d'Ivoire, le groupe musical Magic System et l'Union européenne ont lancé un programme de distribution de vivres et de matériel de prévention contre le coronavirus à 5000 familles démunies à Abidjan, ont indiqué vendredi les organisateurs. La Côte d'Ivoire est officiellement touchée par l'épidémie avec 194 cas, dont un décès, selon le dernier bilan jeudi. Face à l'explosion des violences conjugales durant la première semaine de confinement en Tunisie, le ministère de la Femme qui a élargi les horaires de la ligne de soutien aux femmes violentées lance lundi une assistance psychologique gratuite par téléphone. Le nombre d'agressions signalées contre les femmes a été multiplié par 5 par rapport à la même période en 2019, a indiqué vendredi la ministre de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées. Selon la ministre, plus de 40 femmes victimes de violences ont été signalées du 23 au 29 mars contre 7 alertes durant la même période en 2019. Au Togo, le président Faure Gnassingbé a décrété mercredi soir l'état d'urgence sanitaire pour une période de 3 mois afin d'éviter la propagation du nouveau coronavirus qui a déjà fait 2 morts dans le pays pour 36 cas recensés et a ordonné une remise de peine pour plus de 1000 prisonniers. Par ailleurs, M. Gnassingbé a annoncé la création d'une unité spéciale antipandémique composée de 5000 agents des forces de défense et de sécurité. Ces derniers seront déployés sur l'ensemble du pays pour faire respecter les mesures prises par les autorités. Un haut responsable de la lutte contre la maladie du nouveau coronavirus au Sénégal a indiqué jeudi que les services sanitaires sénégalais allaient poursuivre le traitement par l'hydroxychloroquine des patients atteints par le coronavirus qui guérissent plus vite. Les habitants de l'île Maurice qui commençaient à manquer de provisions se sont rués jeudi dans les supermarchés fermés depuis près de 10 jours dans le cadre du confinement décidé par le gouvernement pour lutter contre le nouveau coronavirus. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kabore a gracié jeudi 1207 détenus pour freiner la propagation du coronavirus dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest qui enregistre 288 cas et 16 décès. La police sud-africaine a évacué jeudi des centaines de réfugiés qui occupaient depuis des mois une église du Cap au sud-ouest en pleine période de confinement pour cause de pandémie de coronavirus, a indiqué une source qui a remis l'anonymat. Les autorités du Zimbabwe et l'ONU ont lancé jeudi un plan d'aide humanitaire d'urgence d'un montant de 715 millions de dollars pour venir en aide à un tiers de la population du pays, menacée par la famine et très exposée à l'épidémie de coronavirus. Le Malawi, jusque-là épargné par le nouveau coronavirus, a rejoint jeudi la longue liste des pays africains touchés par la pandémie en annonçant les 3 premiers cas confirmés de contamination sur son territoire. Plus de 5000 personnes en sont poursuivies par la justice pour avoir violé l'état d'urgence sanitaire instauré le 20 mars pour freiner la propagation du nouveau coronavirus selon un bilan officiel présenté jeudi. Ajoutons pour clôturer le dossier du nouveau coronavirus en signalant que l'Association internationale des maires francophones, présidée par la maire de Paris, Anne Hidalgo, a débloqué 1 million d'euros pour aider les villes francophones d'Afrique à lutter contre le coronavirus.
Radio Vatican, Français Afrique, Françoise Niamier.
Le premier ministre du Lesotho, Thomas Tabane, en sursis depuis qu'il est mis en cause dans le meurtre de son ex-femme, a ordonné vendredi à la police d'ouvrir une enquête contre son parti et l'opposition qu'il accuse de vouloir le renverser. Le ravisseur du chef de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, ont libéré 5 de ses compagnons enlevés en même temps que lui le 25 mars, a indiqué vendredi sa formation politique alors que de discrètes négociations se poursuivent pour obtenir sa libération. Soumaïla Cissé et 3 autres membres de sa délégation sont toujours détenus selon un communiqué de l'Union pour la République et la démocratie, la formation qu'il préside. Ajoutons à propos du Mali que la participation aux élections législatives du 29 mars a été faible, avec à peine plus d'un tiers des électeurs ayant répondu présent. C'est en tout cas ce qu'ont indiqué jeudi les autorités 4 jours après un scrutin marqué par des attaques djihadistes et la crainte du coronavirus. Amnesty International a dénoncé jeudi la complicité entre forces de sécurité guinéennes et troupes de jeunes lors des violences électorales qui ont marqué le référendum et les législatives en Guinée le 22 mars, boycottées par l'opposition. Au moins 20 miliciens ont été tués jeudi dans le sud de la Somalie au cours d'affrontements entre clans rivaux et qui disputent des terres, ont indiqué des responsables locaux et des détenus. Les tensions entre les clans des combattants Ormalé et Majesten, à quelques 30 kilomètres de la ville portuaire de Kismayo dans le sud-est, se sont accrues ces dernières semaines. La justice bissau-guinéenne a prononcé jeudi les peines les plus lourdes de son histoire dans une affaire de drogue, 6 mois après une saisie historique de 2 tonnes de cocaïne dans le pays.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Notre magazine du jour est consacré à l'actualité internationale. Jean-Paul Kamba.
Dans le cadre de notre magazine, voici quelques brèves qui ont marqué l'actualité internationale cette semaine. La pandémie du nouveau coronavirus faisait vendredi au moins 53 693 morts dans le monde depuis son apparition en décembre dernier en Chine. Plus d'un million de personnes ont désormais été testées positives au nouveau coronavirus dans le monde, une fraction du nombre réel des malades et le nombre des décès explose aux États-Unis où près de 1 200 personnes sont décédées en 24 heures. En Allemagne, les mesures de restriction mises en place commencent à faire effet en ralentissant la propagation du nouveau coronavirus, a déclaré vendredi le président de l'Institut Robert Koch. L'Espagne a enregistré plus de 900 morts du Covid-19 vendredi pour le deuxième jour consécutif, même si le nombre de décès et de nouveaux cas continue de ralentir, ont annoncé les autorités. Au total, la maladie a emporté au moins 10 935 vies dans le pays, le deuxième le plus endeuillé au monde par la pandémie derrière l'Italie. L'Italie donc, où le chef du gouvernement Giuseppe Conte a appelé vendredi l'Union européenne à être plus ambitieuse, unie et courageuse face à l'épidémie du Covid-19 dans une réponse à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. L'ONG Human Rights Watch a exhorté vendredi la Turquie à libérer sans faire de distinction ses détenus atteints de maladies chroniques qui sont particulièrement vulnérables face à l'épidémie du nouveau coronavirus. Le maire d'opposition d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, a réclamé jeudi un confinement total de la plus grande ville de Turquie pour empêcher une hécatombe liée au nouveau coronavirus, déplorant un manque de coordination avec le président Recep Tayyip Erdogan. En Grande-Bretagne, sous le feu des critiques pour l'insuffisance de dépistage du nouveau coronavirus, le gouvernement britannique s'est fixé jeudi un objectif de 100 000 tests par jour d'ici fin avril pour soulager des hôpitaux débordés et à plus long terme sortir du confinement. Dans un autre registre, un extrémiste islamique britannique condamné à mort pour l'enlèvement et le meurtre en 2002 du journaliste américain Daniel Pearl au Pakistan a vu sa peine annulée jeudi par un tribunal du sud du pays. L'impact de la pandémie de coronavirus sur l'économie mondiale pourrait atteindre près de 2 000 milliards à 4 100 milliards de dollars, soit 2,3% à 4,8% du PIB mondial. C'est ce qu'a affirmé vendredi dans un communiqué la Banque asiatique de développement. L'Australie a réaffirmé vendredi qu'elle ne laisserait pas les équipages de paquebots de croisière qui compteraient des cas de coronavirus débarquer sur son sol. Plus d'une dizaine de navires se trouveraient actuellement au large des côtes australiennes, avec plus de 15 000 membres d'équipage à leur bord. La Chine a donné jeudi son feu vert à un médicament de base de bile d'ours afin de traiter des patients victimes du Covid-19. Relançant la controverse sur le traitement des plantigrades élevés à cette fin. Le président russe Vladimir Poutine a décrété jeudi les mois d'avril chômés tout en préservant les salaires afin de contrôler la propagation du nouveau coronavirus en Russie, la pandémie n'ayant pas encore atteint son pic. Le navire de croisière Zandam, qui a erré en mer pendant des jours après avoir été rejeté par plusieurs ports parce qu'il transportait des passagers atteints du coronavirus, a été autorisé jeudi à accoster en Floride où les personnes les plus malades pourront être soignées. La pandémie du COVID-19 est la pire crise depuis la Deuxième Guerre mondiale, a estimé mardi le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres en faisant part de ses craintes de voir davantage de conflits dans le monde. Facebook et Instagram ont surpris lundi à leur tour après Twitter des vidéos du président brésilien Jair Bolsonaro estimant qu'elles envoyaient le mauvais message de l'épidémie de coronavirus en montrant des bains de foule.
Migration, c'est notre rubrique du jour. Camille Mukuso.
Notre rubrique sur la migration commence par l'appel lancé vendredi 27 mars dernier par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés en vue de répondre aux vastes besoins humanitaires des réfugiés ayant fui cette année des conflits au Soudan du Sud. Selon un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les arrivées des réfugiés se sont poursuivies en 2019 avec plus de 74 000 Sud-Soudanais cherchant refuge en Ouganda, au Soudan, au Kenya, en Éthiopie, en République démocratique du Congo et en République centrafricaine. Le plan régional d'intervention en faveur des réfugiés proposé par l'agence onusienne complète le plan des réponses humanitaires pour le Soudan du Sud d'un montant de 1,54 milliard de dollars lancé en décembre 2019. Outre la priorité accordée à l'éducation, les Hauts Commissariats des Nations Unies pour les réfugiés soutiennent que les fonds sont nécessaires de toute urgence pour fournir une assistance vitale. Une aide qui permettra la prise en charge des 65 000 enfants réfugiés non accompagnés ou séparés, l'accès à l'eau potable et des mesures contre la violence sexuelle ou sexiste. Cet appel de fonds est également un appel à la communauté internationale pour renouveler son soutien aux 5 principaux pays d'accueil des réfugiés sud-soudanais. L'Éthiopie, le Kenya et l'Ouganda s'y sont révélés des hôtes exceptionnels et incluent de plus en plus des réfugiés dans leurs services nationaux. Les gouvernements du Soudan et de la République démocratique du Congo appliquent également de façon louable de politiques progressistes en faveur de réfugiés hors des camps qui méritent un soutien accru. 2 millions de personnes supplémentaires sont déplacées à l'intérieur du Soudan du Sud et selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la plus grande population des réfugiés d'Afrique est originaire du Soudan du Sud. Le naufrage d'un navire au large de la Libye fait passer à 20 000 le nombre de décès des migrants et des réfugiés en Méditerranée, a indiqué l'Organisation internationale pour les migrants, OIM. Un tragique naufrage au large des côtes libyennes le mois dernier et plus d'une douzaine d'autres décès récents ailleurs ont porté le nombre de morts en mer Méditerranée à 20 014 depuis 2014, selon le projet de l'OIM sur les migrants disparus. Les derniers épisodes de cette longue série des tragédies en Méditerranée remontent au 9 février dernier, quand des personnes ont été portées disparues à bord d'un canot au nord des Garabouli en Libye. Outre la tragédie au large des côtes libyennes, l'agence de l'ONU pour les migrations indique que les corps de 3 jeunes hommes ont été rejetés la semaine dernière sur une plage en Tunisie. Ils sont probablement liés à un navire transportant 18 personnes qui a quitté l'Algérie et dont le sort est resté incertain, a précisé Paul Dillon, porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrants, précisant que les 2/3 des décès enregistrés par les équipes de l'OIM sont des personnes perdues en mer sans laisser des traces. De façon générale, même si le nombre annuel de décès a diminué chaque année depuis 2016, l'année où plus de 5000 personnes ont perdu la vie en traversant la Méditerranée, l'Organisation internationale pour les migrants révèle toutefois que la proportion des décès par rapport aux tentatives de traverser a augmenté en Méditerranée centrale et occidentale en 2019 par rapport aux années précédentes, ce qui constitue une poursuite de l'augmentation du risque des décès observés depuis 2017. Dans ces conditions, sans une fin en vue dans cette tragédie en Méditerranée, l'Organisation internationale pour les migrations réaffirme qu'il est urgent d'améliorer et de développer des voies d'accès légales et sûres pour les migrants et les réfugiés. Il s'agit à la fois des mesures pour réduire l'incitation à choisir des voies irrégulières et pour aider à prévenir le perte de vie inutile et évitable. Les bureaux des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires en République démocratique du Congo, en collaboration avec le gouvernement, a lancé vendredi un appel à 1,82 milliard de dollars pour faire face à la crise humanitaire de ce pays où près de 16 millions de personnes ont besoin d'aide, deux fois plus qu'en 2016. Le plan des réponses humanitaires 2020 vise à fournir une assistance à plus de 8 millions de personnes dans le besoin, a précisé les bureaux des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Les besoins très élevés sont provoqués par des conflits violents, des catastrophes naturelles, des niveaux élevés de pauvreté, la faiblesse des infrastructures publiques et les manques des services de base. Ces mélanges complexes continuent de générer des déplacements, de la malnutrition, de l'insécurité alimentaire, des épidémies et des problèmes de protection, a précisé un porte-parole du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humaines, Jean Lerck, lors d'un point de presse à Genève en Suisse. 5 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays. C'est ce qui fait de la République démocratique du Congo les pays les plus touchés par les déplacements internes en Afrique. La République démocratique du Congo compte plus de 5 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, dont certaines ont été déracinées à plusieurs reprises.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est la fin de cette édition de notre programme qui vous a été présentée par Françoise Niamia. Merci de l'avoir suivi et surtout de votre fidélité à Radio Vatican. Au revoir.